Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le choix d'une vie pour parler sans tabou du désir ou non de faire un enfant. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier car le podcast a dépassé la barre des 600 écoutes. Ça me touche beaucoup et ça me motive à poursuivre. Alors merci pour votre soutien et continuez à en parler autour de vous et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. 5, c'est le top, pour m'aider à faire connaître le choix d'une vie et à convaincre de nouveaux invités de venir témoigner. Pour ce 5e épisode, vous allez entendre l'histoire d'Anise. Vous la connaissez peut-être, elle est l'autrice du livre « Avoir un enfant à 40 ans », coécrit avec Agathe Giroux. Elle est également à l'origine du site et du podcast du même nom. Jusqu'à 36 ans, Anise a mené une vie de rockstar et ne voulait pas d'enfant. Puis elle a rencontré Jean-Michel, déjà père d'un petit garçon de 3 ans, et c'est à leur côté qu'elle a eu envie de devenir maman elle aussi. Elle a alors donné naissance à Clément, à 41 ans. Un parcours de vie inspirant comme on les aime, je vous souhaite une bonne écoute.
C'est parti ?
C'est parti.
Salut Anise, merci d'être là aujourd'hui.
Salut Jennifer, merci de m'accueillir.
Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter, enfin te présenter toi et nous présenter ta famille ?
Ok, moi j'ai 46 ans, j'allais dire 43, mais non, 46. je travaille dans le digital, dans le rédactionnel et dans l'animation des réseaux sociaux. Et je suis aussi auteur, co-auteur d'un guide pratique qui s'appelle « Avoir un enfant à 40 ans ». J'ai un fils qui vient d'avoir 5 ans et un beau-fils de 14 ans. Voilà.
Et un compagnon.
Et je suis, voilà, exactement. Absolument. Et je vis avec Jean-Michel que j'ai rencontré à 36 ans, donc en fait il y a une dizaine d'années.
D'accord, et oui, vous avez bientôt fêté les 10 ans ou vous venez de les fêter?
Non, bah, en fait on aurait dû les fêter l'année dernière et bon, ça a été un peu bousculé, donc peut-être qu'en 2020 on fera ça.
Bah oui. Donc tout de suite je vais rentrer dans le vif du sujet. Si j'avais envie de faire cet épisode avec toi, c'est parce que tu m'as raconté que pour toi, être mère, c'était pas du tout une évidence, que pendant très longtemps, tu ne voulais pas d'enfant, tu ne pensais pas en avoir, et puis bon, le chemin de la vie a fait que, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette première partie de ta vie ?
Oui, effectivement, moi, je n'avais pas spécialement envie de faire des enfants. Et même si j'essaye de me replonger un peu dans mes rêves de petite fille, je crois que je n'avais pas forcément l'idée de fonder une famille. J'avais plutôt un peu des rêves d'artiste. Je voulais faire du théâtre, de la musique, monter sur scène surtout. C'était
ce que tu as fait d'ailleurs.
Et voilà, c'est un rêve que j'ai fini par réaliser, un petit peu par hasard, via des rencontres à la fac. C'était une belle histoire de fac, en quelque sorte, une histoire d'amour aussi, puisque je sortais avec le chanteur. Et du coup, dans ce contexte musical, on écrivait des albums, on faisait des tournées.
La vie de rockstar, quoi.
Voilà, dans une certaine mesure, quoi, rockstar à la française. On n'était pas non plus tous les soirs en concert, hein, mais c'est vrai que... il fallait quand même être relativement disponible. À un moment, moi je travaillais dans les cosmétiques, je travaillais à l'export, j'avais fait des études de langue et de commerce, donc assez logiquement, à la sortie de mes études, j'ai commencé à travailler et je faisais déjà de la musique depuis un moment, donc dans ce groupe qui s'appelait Daisy Box. Et peu à peu, les choses sont devenues sérieuses, on a été signé par une maison de disques. Du coup, j'ai arrêté de travailler et je me suis investie à fond dans cette aventure. Et du coup, le désir d'enfant qui n'était déjà pas hyper présent avait quand même encore moins sa place dans ce contexte. Pas seulement pour des questions de disponibilité ou de stabilité financière, parce que évidemment, c'était une vie un peu bohème, mais aussi parce que quand on est comme ça, immergé dans une activité artistique, il y a quelque chose qui vous comble qui vous obnubile aussi, enfin qui c'est en fait c'est très prenant et on n'a pas forcément la disponibilité d'esprit non plus pour penser à autre chose qu'à ce qu'on est en train d'essayer de créer.
D'accord.
Et voilà, et ça c'est vrai que ça a beaucoup joué aussi, je pense.
Et ton compagnon de l'époque, donc tu étais toujours avec le chanteur?
Oui, on est resté assez longtemps ensemble.
Ok, ouais. Et lui non plus, de toute façon, c'était pas vraiment une envie de sa part?
C'était pas spécialement, non, même chose, on était un peu dans le même état d'esprit, et puis on avait une approche, entre guillemets, très intellectuelle des choses, c'est-à-dire qu'on se disait, après tout, pourquoi se reproduire alors que... les centres d'adoption débordent, qu'il y a des problèmes de surpopulation. Mmh. Donc on avait un peu ce discours et puis on était entouré de gens qui pensaient un peu comme nous aussi. Enfin voilà, on n'évoluait pas dans des milieux de gens avec des enfants.
D'accord.
En fait, moi j'étais assez peu en contact. Alors, mon frère a eu 3 enfants, mais je ne le voyais pas beaucoup. Donc j'étais assez peu en contact avec des enfants en fait.
D'accord, mais en revanche, c'était pas forcément l'idée d'être mère auquel tu pensais pas, mais enfin, t'aurais pu penser à l'adoption par exemple, éventuellement.
Oui, c'était plus, en tout cas, encore une fois, hein, sur le papier.
Ouais.
C'était pour moi plus acceptable, entre guillemets, que simplement de se reproduire. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui me dépassait. Alors, je pense qu'il y avait certainement plein d'autres choses inconscientes, tu vois, qui devaient jouer. Mais voilà, j'étais plutôt dans cet état d'esprit.
Et du coup, je repense donc à Camille qui était mon invitée de mon deuxième épisode et qui a dû faire face à une grosse pression à certains moments sur le fait de ne pas en vouloir. Alors toi, tu n'avais pas forcément beaucoup d'enfants autour de toi, mais est-ce que tu subissais aussi ce côté pression de...
Ah oui, la pression sociale, elle est vraiment forte, je trouve, à partir de 30 ans. Moi, entre 30 et 38 ans, j'ai quand même eu pas mal de réflexions. C'était rarement malveillant, hein, c'était plutôt maladroit, hein, mais du genre oui, mais tu vas vieillir seule, un jour il sera trop tard, tu vas le regretter. Voilà, ce genre de réflexions qui n'étaient pas forcément très agréables. Et puis, vers 38-39 ans, les réflexions se sont taries et j'ai senti que je basculais dans une autre catégorie. Et à 40 ans, alors que j'étais tout juste enceinte, il y a quelqu'un qui m'a dit « toi, de toute façon, tu as fait ton choix, tu ne veux pas d'enfant ». Et je me rappelle que je bouillonnais parce que j'avais envie de répondre quelque chose, mais je n'avais pas encore passé les 3 mois.
D'accord.
Donc bon, à cet âge-là, il faut quand même faire attention, mm-hmm. Parce que la fausse couche rôde. Mais ça me faisait sourire parce que je me disais, mais c'est pas possible. En fait, je ne suis toujours pas dans les cases. Quoi.
Ouais.
C'est comme si j'avais manqué, j'avais loupé la fenêtre de tir, tu sais,
ouais.
Entre 25 et 35 ans, parce que je pense qu'en dessous de 25, c'est un peu trop tôt.
Ouais, bien sûr.
Socialement, même chose, c'est pas trop acceptable. Donc voilà, 25, 35, et si tu rates ce moment, t'es un peu en dehors des clous. Je pense que c'est un peu dérangeant. Vu de l'extérieur, voilà. C'est en tout cas, ça interpelle. Mais pourquoi ? Surtout quand on est en couple. Enfin, j'étais en couple, donc j'avais pas de raison de pas faire d'enfant, en gros.
Ouais. Oui. Puis c'est toujours la question. Enfin, souvent la question qu'on pose à la dame plutôt que.
Oui,
au
oui,
monsieur,
oui, tout
quand
à fait.
Même, hein,
ouais.
Même
ouais,
si,
ouais, ouais.
C'est encore beaucoup comme ça. Et à ce moment-là, pour le coup, toi, t'as jamais pensé à la stérilisation ? Enfin, parce que tu parles d'adoption et tout.
Alors,
ça.
Non, et puis je vais te dire une chose, moi j'étais sous pilule,
ouais.
Je la supportais très bien, ça se passait, j'étais ravie, j'avais quasiment plus de règles, enfin c'était la fête quoi. Et par contre, je n'ai jamais entendu parler de contraception définitive, mais bon ça fait quand même un moment, hein. Moi j'ai 46 ans, donc à l'époque, ouais. On n'en parlait quasiment pas.
D'accord.
Évidemment, ma gynéco s'est bien gardée de me dire quoi que ce soit, à chaque fois que j'allais la voir c'était plutôt bon, faudrait peut-être vous y mettre. Donc, je ne savais même pas que ça existait. Et après, tu vois, si je l'avais su, je ne suis pas sûre que, que j'y serais allée parce que je pense que je me laissais quand même un champ des possibles.
Et tu as bien fait du coup, parce que ça, nous entraîne sur cette deuxième partie de ta vie où tout a un peu changé, enfin même tout a changé avec l'arrivée de Jean-Michel dans ta vie, donc à 36 ans.
Oui, effectivement, alors mes aventures musicales ont pris fin. Ça devenait quand même de plus en plus compliqué d'en vivre. On avait eu quelques démêlés avec la dernière maison de disques. Voilà, ça ne s'était pas très bien passé.
T'as fait ça pendant combien de temps à peu près ?
En fait, on a sorti un premier album autoproduit autour de 2000. Et ensuite, on a fait trois albums en maison de disques en 2003, 2005, 2008. Donc si tu veux, c'est sur une petite dizaine d'années, en gros. Voilà. Donc mes aventures musicales ont pris fin en même temps que ma relation avec le chanteur. Et là, je me suis demandé ce que j'allais faire. Enfin, franchement, je ne voyais pas bien comment allait évoluer ma vie.
Puis j'imagine que quand tu avais vécu cette vie de liberté quand même, se dire je retourne en entreprise ou autre.
Oui, c'est ça. Et puis de liberté et puis un peu d'adrénaline. Ouais. C'est vrai que monter sur scène, c'était quand même extrêmement grisant. Enfin, voilà, faire régulièrement des concerts, c'était assez addictif. Et comment tu te réinventes derrière sur le plan professionnel, j'ai eu la chance de tomber dans le digital un peu par hasard. J'ai filé un coup de main à un copain qui lançait un site internet et je me suis formée un peu sur le tas. Et après, j'ai rencontré, à peu près un an après la fin de mes aventures, Jean-Michel, qui était... déjà papa d'un petit garçon qui s'appelle Thomas, qui avait à l'époque 3 ans et demi. Et c'est vrai que ça a été un changement de vie assez brutal, mais je ne l'ai pas forcément vécu comme ça, parce que la relation s'est construite vraiment de façon progressive. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je n'ai pas vendu mon appartement pour m'installer chez lui ou ce genre de choses. On a pris notre temps, lui aussi.
C'était
je pense
la rencontre ? Parce que nous, on adore les histoires d'amour. Alors, en tout cas, moi, j'adore.
Notre rencontre, elle est un peu particulière. Ce n'est pas forcément la plus romantique. Mais on s'est rencontrés dans un bar parce qu'on avait un ami commun. Et moi, je n'étais pas spécialement open ce soir-là. Donc, je sais pas, je n'ai pas forcément répondu à ses avances tout de suite. Mais on a repris contact assez rapidement derrière. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait plein de points communs.
D'accord.
Et voilà, et ça s'est construit comme ça. Et le fait qu'il soit déjà père, alors moi, ça ne m'a pas du tout angoissée. Ça peut faire peur, hein, je pense, dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs, pour un homme ou pour une femme. Moi, je n'avais pas trop conscience de ça, mais de la même façon que je n'avais pas tellement conscience des enfants et de l'impact que ça pouvait avoir dans une vie. Alors, je me suis rendu compte quand même que au fur et à mesure que je rentrais dans un petit cocon, mais comme ils m'ont fait vraiment une belle place, l'un et l'autre, et vraiment...
Oui, ça c'est chouette parce que c'est pas tout le temps...
C'est
parfois,
pas franchement
c'est super dur
pour
les enfants d'accueillir une nouvelle
Bien
personne,
sûr, bien sûr, même petit. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus facile quand même que si ça avait été un ado. Je pense que, j'ai eu de la chance. C'était un petit garçon aussi, donc il y avait peut-être moins de concurrence. Lui, il m'a accueilli, mais vraiment les bras ouverts. Et puis, Jean-Michel m'a fait une place assez spontanément, en fait. La relation s'est construite.
Tu avais rencontré Thomas rapidement
ou... Alors, un mois, je me souviens qu'il a dû attendre un ou deux mois avant de me le présenter. Mais c'est rien.
C'est rien.
C'est rien du tout.
D'accord.
Non, j'ai vraiment eu sa confiance assez vite et Thomas m'a adoptée très rapidement aussi.
D'accord.
Donc ça, c'était une belle rencontre. Et du coup, moi, ça m'a permis de découvrir un peu la vie de famille, le fait de transmettre les sorties familiales, les câlins du matin, enfin, tu sais, tous ces moments un peu précieux que je ne connaissais pas.
Vous l'aviez, enfin, à partir du moment où tu as... emménager avec Jean-Michel, vous l'aviez une semaine sur deux ou...
Oui, c'est ça, on l'avait, c'est ça, à l'époque c'était une semaine sur deux, oui, tout à fait. Oui, donc en général, j'étais là, On n'a pas rapidement habité ensemble, on a pris un peu le temps, mais du coup, je le voyais quand même très régulièrement.
Bien sûr. D'accord.
Et progressivement, bah, 36, 37, 38, autour de 38 ans, j'ai senti les choses changer en moi. Alors, je ne peux pas vraiment parler d'un appel du ventre comme ça arrive chez certaines femmes, mais je pense qu'il y a quand même une horloge biologique qui était quelque part en moi et qui me disait « faudrait peut-être s'y mettre, ce serait pas mal ». Mais c'est surtout quand même Thomas qui m'a donné envie de devenir mère. Je me suis dit « voilà, on est bien à 3, on serait encore mieux à 4 ».
D'accord.
En gros, c'est ce que je me disais consciemment et inconsciemment. Et là, il a fallu que je prenne un peu de temps pour convaincre mon cher
étendre. C'est ce que j'allais te demander, parce que donc Jean-Michel avait son premier fils. Et est-ce voilà. qu'il était open à l'idée de faire un deuxième enfant ?
En fait, lui, il a eu une première expérience compliquée, très compliquée, parce que son ex-femme est partie peu de temps après la naissance. Elle est revenue par la suite, mais si tu veux, il y a eu un moment, elle a probablement fait un postpartum assez énorme. Et il y a eu un moment de flottement. Lui s'est retrouvé quand même seul avec son fils pendant plusieurs mois. Et alors que rien, d'après ce qu'il me raconte, ne laissait en tout cas présager d'une telle issue. Tu vois, c'est-à-dire que c'était pas, la grossesse s'était passée à peu près normalement. L'envie de couple se passait bien aussi. Donc ça a vraiment été une surprise, ça a vraiment été un choc extrêmement brutal.
D'accord, oui.
Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Donc j'ai un petit peu ramé pour le convaincre.
Mais du coup, pour toi, c'est devenu de plus en plus important cette envie. Et
oui.
Tu voulais vraiment qu'ils disent oui. Quoi.
J'ai vraiment senti, mais ça, je pense que c'est un truc qui est quand même commun. C'est le désir d'enfant, quoi. C'est la puissance du désir d'enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'installe, c'est quand même un peu le rouleau compresseur. Et oui, j'ai senti que ça montait jusqu'au jour où j'ai dit, bon, là, j'arrête la pilule, quoi. C'était un peu avant mes 40 ans. Donc là, je me disais, bon, là, il faut vraiment y aller. Il est plus que temps. J'avais quand même... En plus, je travaillais dans la petite enfance. Je travaillais pour un site internet qui s'appelle Côté Bébé, que j'ai repris à mon compte aujourd'hui. Et j'étais quand même un petit peu au fait des grossesses, alors pas forcément des problématiques d'infertilité, mais j'avais compris que avec l'âge, c'était moins facile. Donc j'ai fini par le convaincre.
Et vous êtes lancée.
Et on s'est lancée. Et les premiers essais bébés n'ont pas donné grand-chose. Après, on m'avait dit, hein, quand même, 40 ans...
Surtout que tu avais pris la pilule jusque-là, en
j'avais
plus.
Pris, ouais. J'avais 20 ans de pilule derrière moi, quasiment ininterrompue. Donc, c'était tout à fait logique. La seule chose, c'est que ma gynéco m'avait dit, à cet âge-là, on n'attend pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois d'essai, vous venez me voir et on fait un bilan de fertilité.
D'accord.
Pour vous et pour votre
Quel âge avait Jean-Michel, au fait, quand tu l'as rencontré ?
Il a un an de moins que moi. D'accord, donc, voilà. Donc nous avons fait tous ces super examens qui portent des noms atroces du genre hystériosalpingographie, le fameux examen des trompes où on vérifie si elles ne sont pas bouchées, lui fait son spermogramme, etc. Et il s'avère que c'est correct.
D'accord.
Voilà, que chez lui comme chez moi, il n'y a pas de blocage particulier et qu'a priori, ça devrait quand même pouvoir marcher. Sauf que, bon, alors on programme les rapports... Ce qui n'est pas forcément génial, mais c'est aussi quand même... Il y a plein d'avis là-dessus. C'est un peu aussi une façon de mettre toutes les chances de son côté, malgré tout. Et un mois avant mes 41 ans, un mois et demi, je retourne voir ma gynéco, qui me dit, écoutez, là, quand même, vous allez avoir 41 ans. Il faut passer la vitesse supérieure si vous voulez vraiment un enfant. Je vous fais une petite lettre de recommandation pour mon collègue qui est spécialiste des inséminations artificielles.
Ok.
Donc là, je rentre à la maison, je suis quand même un peu déprimée parce que c'est vrai que je n'avais pas trop envisagé ça. Jean-Michel non plus. Je savais vaguement qu'il fallait se piquer tous les jours, flacons gonflés. Enfin, j'avais bon, ouais, un peu des clichés, bon, ouais. mais qui sont pas si loin de la réalité que ça, d'après ce que j'ai compris, pour avoir interviewé pas mal de femmes qui sont passées par là. Et j'étais quand même pas très sûre. Enfin, je sentais un peu les limites du désir d'enfant. Ouais. Et malgré tout, je commençais déjà à me dire « Ouais, mais il faudrait peut-être quand même essayer. » C'est là où c'est quand même extrêmement puissant. Quand ça vous habite, c'est dur de s'en défaire. Hein.
Oui, puis tu te dis que tu as envie de tout tester quand même pour,
Pour voilà, être sûre. Voilà. Ouais. C'est, dans la semaine qui a suivi, je suis tombée enceinte. Ouais. Et je l'ai su donc un mois plus tard. J'ai attendu, je voulais être sûre, tout ça. Donc, je suis retournée voir ma gynéco et là, elle a littéralement éclaté de rire en me disant « J'adore faire les petites lettres de recommandation, ça marche presque à tous les coups. »
Le poids du psychologique.
Ouais, voilà, le poids du psychologique. Et oui, je pense qu'il y a eu peut-être un réveil du corps. À un moment, quelque chose en moi s'est dit « Bon, allez, maintenant, il faut y aller.
» Bon, génial. Donc, donc, ça a mis à peu près un an, année pour moi arriver.
Une petite année, exactement.
Et par contre, donc, pas de fausse couche. Enfin, tout a marché là, cette fois, du premier
coup. Tout a marché du premier coup.
Il est resté accroché. Ouais. Tout s'est bien. Comment se passait cette grossesse? Est-ce que, on parlait maternité tardive? Est-ce qu'il y a plus de protocoles? Ça se passe?
Alors, écoute, moi, mon expérience dit que non, parce que moi, j'étais suivie à Necker et vraiment, je n'ai eu aucune prise de sang, aucune échographie supplémentaire.
D'accord.
Et j'ai eu le diabète gestationnel, comme tout le monde. J'ai eu la trisomie. Comme beaucoup. Mm-hmm. Alors, peut-être qu'on ne fait pas la trisomie à 25 ans, je ne sais pas. Mais je pense qu'à partir de 35, on regarde. Mais des examens classiques. Et je n'ai vraiment rien eu de plus. Après, j'ai interviewé plein de femmes pour qui ça a été compliqué dès l'âge de 36 ans. C'est-à-dire que des grossesses qui ont été considérées comme,
à risque.
Avec des discours vraiment hyper anxiogènes. Non, mais attendez, là, votre bébé, il est trop petit. On va faire des. Mais carrément, des nanas qui avaient des échographies tous les mois. Mmh. Donc, je pense que ça dépend vraiment des hôpitaux, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous, de son vécu aussi, sans doute, de plein de choses. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, une grossesse à 40 ans n'est plus considérée comme une grossesse à risque. Une grossesse gémellaire, oui, c'est une grossesse à risque. Une grossesse à 40 ans, quand on interviewe les experts, ils vous disent que non, ce n'est plus une grossesse à risque. Donc, normalement, il devrait y avoir un suivi classique.
D'accord.
Bon, moi, ça a été mon expérience.
Bon.
J'ai eu des nausées, mais pas si méchantes que ça, des insomnies. Voilà, deux gros problèmes, ça a été plutôt nausées et insomnies. J'étais plutôt en forme. J'ai pris assez peu de poids. J'ai fait du sport du début à la fin. J'étais contente en fait, j'étais hyper contente.
Jean-Michel aussi, enfin.
On était bien. Moi, puis j'avais, je pense aussi la petite fierté de me dire, j'y suis arrivée quoi, quelque part. Je sentais bien que c'était pas un exploit, mais que c'était pas mal quoi.
Et Thomas, il avait quel âge donc du coup à ce moment-là?
Thomas avait 9 ans. Enfin, il allait sur ses 9 ans.
D'accord. Et donc lui, il comprenait très bien ce que c'était un petit frère. Une petite sœur d'ailleurs. Enfin là maintenant je dis petit frère
parce que je sais que
c'est Clément. Vous avez voulu savoir d'ailleurs ou pas?
Alors oui, nous on a voulu savoir.
Ouais. Et donc il était content Thomas? Comment il a accueilli cette
Thomas, alors on savait qu'il fallait quand même faire les choses intelligemment. Et on l'a beaucoup... c'est pas qu'on a pris des pincettes, mais il a été le premier à savoir. Et une fois qu'il l'a su, on l'a vraiment impliqué dans le projet. C'est-à-dire qu'il a choisi le prénom avec nous. Il pouvait toucher mon ventre quand il en avait envie. Mm-hmm. Il était vraiment pas mis à l'écart. Et il a eu cette réflexion très chouette le jour où on lui a annoncé. Donc, j'étais enceinte d'un peu plus de 3 mois. Et il nous a regardé du haut de ses 9 ans. Enfin, même pas 9 ans. Hein. Il s'est dit... mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et c'était vraiment drôle, quoi, tellement mature. Après, c'est un petit garçon qui a une histoire de vie qui fait qu'il est très mature. C'était chouette.
Et puis toi, c'est génial parce que c'est hyper apaisant, entre guillemets, de savoir que tout le monde est content.
Franchement, oui, voilà. Après, c'est toujours compliqué de savoir si un enfant ne fait pas aussi les choses pour faire plaisir. Honnêtement, je pense qu'il a apprécié aussi d'être peut-être le premier prévenu, et puis tout au long des 9 mois, d'être vraiment impliquée. Il a vraiment choisi le prénom avec nous, quoi. On avait chacun proposé un prénom. Ça s'est fait de façon assez fluide.
Et alors l'accouchement, pareil, tout s'est passé normalement. Est-ce que tu t'étais préparée d'une certaine manière? Alors là, de toute façon qu'on ait 25 ou 40, c'est la même chose, mais ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes justement sur certaines techniques
voilà. Moi, j'ai eu une préparation classique avec une sage-femme qui était très jeune et qui n'avait pas eu d'enfant. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce qu'elle nous a, si tu veux, expliqué les choses sans qu'elle soit teintée de son expérience. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. Je pense qu'elle nous avait à peu près tout dit, sauf une chose. Et ça, j'en ai reparlé derrière parce que j'ai fait l'objet d'une petite erreur médicale le jour de mon accouchement. Et je pense que j'aurais pu accoucher beaucoup plus rapidement que je ne l'ai fait. Je me suis présentée à Necker un samedi matin assez tôt. En gros, j'ai eu des contractions dans la nuit. J'ai travaillé assez longuement à la maison parce qu'elle nous avait bien expliqué que justement il ne fallait pas y aller trop tôt, qu'on risquait de tourner en rond, qu'à partir du moment où on était alité, perfusé et compagnie, on ne pouvait plus rien faire. Donc j'avais bien retenu ça.
C'était presque à terme
C'était la veille du terme.
Ah ouais,
voilà.
D'accord.
Donc,
ponctuel.
Ouais, très ponctuel, absolument. J'avais un petit peu hâte qu'il arrive, là, je craignais le déclenchement, c'est le fameux. Donc je suis arrivée à Necker, j'avais déjà bien travaillé, mon col était ouvert à 4.
T'étais restée combien de temps à la maison à attendre,
2-3 heures.
D'accord.
À travailler avec un ballon. Mais c'est vraiment intéressant de se préparer à l'accouchement avec des gens qui font ça bien. Il y a plein de façons de le faire. Moi, je n'ai pas fait de yoga ni rien, mais je sais pas, elle nous avait donné vraiment les bons gestes, l'essentiel. D'accord. Et quand je suis arrivée, on m'a installée, on m'a dit, écoutez, très bien, madame, vous êtes prête et tout, on va appeler l'anesthésiste, on va vous poser la péridurale, là, ça va... Bon, il s'occupe d'une dame à côté, mais il va venir. En fait, l'anesthésiste, il n'arrivait pas. Alors, d'après ce que je comprenais, il n'arrivait pas à poser sa péridurale chez ma voisine.
D'accord.
Il avait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et en attendant, moi, j'avais les centimètres du col qui s'ouvraient, et à tel point que, j'étais à 7-8. Alors, ça allait, je gérais la douleur Alors moi, j'ai fait pas mal de méditation, de respiration. Enfin, j'en faisais avant d'être enceinte à titre personnel. Donc, j'avais quand même bien intégré le fait que la contraction, elle dure un certain nombre de secondes, mais qu'on a aussi un temps de repos et que pendant les 30 secondes de repos, il faut vraiment se reposer, prendre des forces pour la contraction suivante. Mais on m'avait bien dit aussi que... Alors après, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais la sage-femme avait expliqué un truc très intéressant. Elle m'avait dit, en fait, les contractions, elles sont plus rapprochées. Plus on avance dans le temps, plus elles se rapprochent, mais elles ne sont pas forcément plus fortes. Par contre, psychologiquement, on est un peu usé, puis on fatigue aussi physiquement, donc on a la sensation que la douleur est plus importante. Mais en vrai, pas tellement. Donc j'avais bien gardé ça en tête, donc ça allait. Mais je commençais un peu à m'impatienter, puis surtout, ça m'énervait que cet anesthésiste n'arrive pas. Là.
Parce que tu as attendu,
Je sais pas, 2 heures, donc... et puis, on m'a annoncé que l'anesthésiste rentrait chez lui et que c'était le changement de garde.
D'accord.
Et qu'une dame allait arriver pour me soulager. Et là, la nouvelle anesthésiste est arrivée et elle m'a fait une périrachie. Moi, je ne savais absolument pas ce que c'était. Alors, elle m'a posé cette anesthésie extrêmement rapidement. Elle m'a fait juste une petite piqûre. Moi, j'avais compris que l'anesthésie, c'était quand même un peu plus compliqué, que ça prenait un peu plus de temps, qu'il ne fallait pas bouger, etc. Et elle, paf, elle me pique et c'est bon. Et je l'avais entendu échanger avec une collègue. On lui fait une périrachie. OK, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, là, j'ai compris qu'on m'avait fait la péridurale des césariennes. Donc, si tu veux, ça t'immobilise tout le bas du corps. Donc, tu ne sens plus rien. Et moi, ce n'était pas du tout ce que je voulais.
Et en plus, c'est abusé de même pas poser la question.
Absolument. Je pense qu'elles se sont dit, c'est son premier enfant, elle a le col ouvert à 8.
Ouais, tu avais quand même géré la douleur jusqu'à 8. Donc en soi, tu étais presque en train d'accoucher naturellement.
Bon, elles ont pris la liberté de faire ça. Ce qui fait, et en plus, c'est une anesthésie qui agit tout de suite. Ce qui fait que j'ai commencé à me sentir un peu
dans les vapes.
Dans les vapes.
Ça doit être un peu déstabilisant de ne plus sentir en bas du corps d'un
C'est désagréable.
C'est stressant. Enfin,
c'est très désagréable. Tu ne sens plus aucune contraction. Inutile de dire que voilà, il ne se passe rien. Et comme je tombais un peu dans les pommes, elles m'ont mis de vie plein de vitamines dans la perf pour que je reprenne un peu mes esprits. Bon, ça a été très court. J'ai pas été stressée. Je pense que je réalisais pas forcément ce qui se passait, mais une chose est sûre, c'est que ça a vachement ralenti le travail. C'est-à-dire qu'après,
ouais, alors que tu avais quand même plutôt bien géré, parce qu'au final, en 4-5 heures, j'étais déjà à 8. Quoi,
voilà, normalement, c'était réglé, quoi.
Ouais.
Et du coup, j'ai dû perdre une bonne heure, tu vois, à attendre. Bon, ouais. Ça allait, mais j'étais. Alors du coup, j'étais avec mon compagnon et j'aurais pu prendre le thé ou mais honnêtement mais j'étais plus du tout dans une ambiance d'accouchement.
Ouais.
J'aurais pas dit poster des trucs sur Facebook, il me lisait des commentaires, on rigolait. Mais forcément là tu te déconcentres complètement, tu vois, t'es plus tellement dans le trip accouchement. Finalement cette périrachie a fini par s'estomper un peu. Le bébé descendait tranquillou. Et puis, il a fallu pousser. Et là, c'est vrai que pour la poussée finale, ça a été compliqué. Je sentais un peu plus, mais quand même plus grand-chose. Et là, j'ai dû pousser une demi-heure avec l'angoisse des spatules. Mais j'avais quand même... Bon, les sages-femmes qui étaient autour de moi, j'en avais deux ou trois autour de moi qui me coachaient. J'ai l'impression d'être dans un marathon. Ils étaient là, allez, on pousse.
Ça,
C'est très bien ce que vous faites. Bravo, madame, on va y arriver. Et bon, c'était presque drôle. Et finalement, j'ai réussi à le sortir. À la fin, ils m'ont dit, attention, on va appeler le médecin avec ses grandes spatules. Je fais, non, je veux le faire.
Le chanteur.
Bon, et finalement, voilà. J'ai réussi à sortir mon fils et je m'en suis pas mal sortie. Je n'ai pas eu d'épisiotomie. Mon périnée en a pris un petit coup quand même. Mais voilà, pas de spatule. Pas de césarienne, pas d'épisiotomie. Bon, je me suis dit.
Et puis, donc en 8-10 heures,
c'est ça, c'est ça, du coup, c'est ça.
C'est pas mal, en fait. Hein.
Non, c'est pas mal. Mais je le raconte parce que périrachie, moi, je ne savais pas ce que c'était.
Oui, moi non plus.
Et je trouve que c'est important quand même de le dire. Normalement, ça se fait pour les césariennes, ou peut-être dans d'autres cas un peu plus extrêmes. Mais moi, je n'avais aucune raison de recevoir une périrachie. Aucune.
Et donc, après avoir eu les réflexions sur ton non-désir d'enfant, tu t'es retrouvée avec des réflexions sur ta maternité tardive à 41 ans ou tu as pu vivre ça sereinement quand même?
Alors, j'ai eu la chance de vivre ça sereinement et de ne pas écoper de réflexions. En revanche, je sais que ce n'est pas toujours le cas parce que j'ai interviewé beaucoup de mamans qui sont aussi des mamans tardives et qui, elles, ont eu des réflexions plus que maladroites, je trouve. Et j'ai même fait un article qui liste toutes ces réflexions. Et ça va de « tu vas faire des enfants de vieux » à « tu vas contre la nature se vengera », en passant par « mais qu'est-ce que c'est que ce caprice ? Tu as déjà trois enfants, pourquoi tu veux en faire un quatrième ?» Pour les femmes qui ont déjà des enfants. D'accord. Et qui en font un petit dernier à 40 ans. Donc, je pense que c'est encore, malheureusement, pas tout à fait rentré dans les mœurs. Alors, c'est vrai qu'on vit dans les grandes villes. Enfin, moi, à Paris, à la sortie de l'école, clairement, je n'ai pas le sentiment d'être beaucoup plus vieille que les mamans. Parce que dans les grandes villes, on fait des enfants un peu plus tard. Donc, il y a beaucoup de femmes qui en font vers 35, 36 ans. Donc, finalement, 36 ans, 41 ans. Par contre, en province, ce n'est pas tout à fait le cas. Et là, je pense qu'on peut vraiment se prendre des réflexions un peu gratuites. Ou alors, c'est ta maman ou ta grand-mère. Dernièrement, j'ai interviewé une maman qui a eu des enfants à 43 et 46 ans.
D'accord.
Et elle s'est quand même pris régulièrement des réflexions, surtout quand ses enfants étaient en bas âge. Vous êtes la mère ou la grand-mère Tu vois, vraiment, va voir ta mamie, elle t'attend, ce genre de truc. Et elle me dit que ça s'est estompé, en fait, au fur et à mesure que les enfants grandissaient. Parce que ce qui choque, c'est de voir une femme un peu plus âgée avoir un enfant jeune, avec un nourrisson ou avec un enfant de 2-3 ans. Je crois que c'est une image qui choque quand même encore pas mal. Bon, c'est en train de changer hein, quand même, mais moi, je n'ai pas eu ces réflexions. Mais je sais qu'elles sont courantes.
Mmh. Ouais, donc du coup, c'est vrai qu'elles doivent se sentir... C'est maladroit, comme tu dis, et puis tu dois te sentir relativement seule dans ces... Enfin, dans ces... comme tu disais, en province, où potentiellement il y a moins de parents qui ont ton âge, tu dois aussi te sentir un petit peu seule à certains moments, quoi.
Tout à fait, et c'est surtout le décalage, si tu veux, entre finalement ton apparence physique et ton âge dans la tête. C'est ça qui est dur à gérer, parce qu'elle me disait, mais moi, finalement, mon âge n'existe que dans le regard des autres.
Ouais.
Moi, j'ai 10 ans de moins parce que mon quotidien est celui d'une femme qui a 10 ans de moins.
Alors, donc, ça y est, Clément est arrivé. Vous étiez 4. D'ailleurs, Thomas était toujours une semaine sur deux
Oui, tout à fait. Oui.
Et voilà, comment s'est passé ce début de vie à 4
Bah écoute, plutôt bien. Alors, moi, d'un point de vue personnel... je me suis sentie me glisser assez facilement dans le rôle de mère. J'ai pas senti des changements fondamentaux. Tu sais, comme on peut entendre dans d'autres histoires. Aujourd'hui, on parle pas mal de matrescence, du fait qu'on opère une espèce de mue entre la femme d'avant la grossesse et celle d'après. Et ça, je ne sais pas si c'est le fait de la maternité tardive, mais moi, il y avait quand même une évidence. Voilà, quelque chose. Je ne dis pas que c'était facile, mais c'était assez fluide.
Et ce que tu me disais, c'est que pour toi, quand même, la maturité, c'est un atout en ça. Oui, c'est que tu sens que vous êtes plus, on est plus confiant, peut-être ou plus...
Oui, peut-être. En tout cas, moi, j'avais vraiment le sentiment que c'était le bon moment. Voilà, que ça n'aurait jamais pu se faire à 30 ans. Et qu'à 41 ans, c'était le bon moment pour moi pour être mère. Du coup, ça s'est fait de façon très fluide. Et oui, quand on parle des bénéfices de la maturité, il y a peut-être un peu plus de zénitude, un peu plus de recul et d'expérience sur la vie. Le fait aussi qu'on est moins dans le sacrifice, en tout cas dans le sentiment de sacrifice, parce qu'on a quand même bien profité avant. À 30 ans, on peut peut-être se dire, mince, les sorties, c'est fini. Voilà, je vais me retrouver à la maison, ça va être, je ne sais pas, je vais moins voir mes copines. Enfin, voilà, moi, je n'ai pas eu de sensation de sacrifice et c'est quelque chose que j'ai remarqué parmi mes congénères, les mamans tardives. On a un peu toutes ce même discours par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on ne le vit pas comme une punition. Voilà, c'est juste que c'est le bon moment, donc ça, c'est assez confortable. D'arriver dans la maternité avec cette sensation que...
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qui est plus difficile que quand tu as 30 ans ?
Oui, alors évidemment, il y a la fatigue. Ça, c'est sans doute la chose la plus compliquée à gérer quand tu es mère tardivement. C'est que clairement, un enfant qui fait passer nuit pendant 2 ou 3 mois... t'as l'impression que ça dure 10 ans. Voilà, ou même pendant une semaine. Donc ça, c'est pas facile, mais tu peux mettre en place quand même des petites techniques. Moi, je faisais des micro-siestes assez régulièrement. Et puis, mon fils, oui, il a fait ses nuits au bout de 4-5 mois, ce qui était très raisonnable. Tu vois, je ne suis pas passée par la case. Mon fils se réveille pendant 2 ans, 3 fois par nuit, comme ça arrive parfois. Peut-être un coup de chance, mais oui, il y a la fatigue à gérer, ça c'est pas facile. T'es moins dans la spontanéité aussi, hein. Il y a à la fois t'es plus zen et t'es quand même aussi plus organisé. Donc il y a moins ce côté spontané, un peu foufou du jeune parent qui gère les choses, tu vois, un peu comme ça vient.
Et donc au-delà de l'organisation, tu me disais aussi que avoir un enfant à 40 ans, ça te permet d'avoir un petit coup de jeune.
oui, c'est assez. C'est des choses que j'ai retrouvées aussi dans l'enquête que j'ai menée. Effectivement, il y a un phénomène un peu de cure de jouvence. Faire des enfants, ça permet de rester jeune. Et à 46 ans, j'ai un enfant de 5 ans. J'ai forcément un quotidien qui va se rapprocher plus d'une mère de 36 ans que d'une femme de 46 ans qui aura des ados. C'est-à-dire que moi, je continue à courir au parc.
Oui, j'avoue.
Je suis encore beaucoup immergée dans l'enfance. Je fréquente fatalement des parents qui sont un peu plus jeunes que moi.
Ouais.
Donc, j'ai le sentiment, ça n'efface ni les rides, ni les cheveux blancs, ni tout ça, évidemment. Mais dans la tête, je trouve qu'on perd 10 ans.
D'accord. Et en termes d'énergie, alors tu parlais de la fatigue, mais quand même, ça donne quand même, demande quand même une sacrée énergie.
Oui, oui. Alors après, moi personnellement, je fais attention à ma santé, je me nourris bien, j'essaye d'avoir une super hygiène de vie. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu indispensable hein, quand on fait des enfants tard. Ça fait partie de mes conseils quand même. C'est évidemment, si on veut rester dynamique... Et si on veut réussir à absorber un peu les nuits compliquées, c'est vraiment de prendre soin de soi.
Ouais.
De prendre des bonnes habitudes alimentaires, de continuer à faire du sport un minimum. Ça aide beaucoup.
Et justement, donc t'arrives, comment tu concilies tout ça justement? Parce que on dit toujours, enfin que d'ailleurs, là pour le coup, c'est un conseil d'ordre général, parce que je pense que tu en es 35 ou 45, c'est pareil, entre la vie de maman, la vie de amante avec ton homme, la vie de professionnelle, parce que tu as ta propre entreprise, et ta vie de femme à toi, comme tu dis, prendre soin de soi, ça t'a fait limite 4 personas à gérer. Comment
on gère ça?
Comment tu concilies? Tu as des petits tips, toi? En tout cas, toi, t'es épanouie.
Oui,
j'ai l'impression.
Oui, après, non, tout à fait. Après, je pense qu'il faut revoir peut-être aussi ses niveaux d'exigence dans certains domaines. Voilà, moi, je sais que je peux pas travailler à plein temps. C'est pas grave. Voilà, le mercredi après-midi, je suis avec mon fils et j'y tiens. Et je suis avec lui tous les mercredis après-midi depuis sa naissance. Parce que j'ai pas envie de rater quelque chose, parce que je vais pas faire d'autres enfants derrière. C'est mon seul enfant, c'est le seul enfant que j'ai fait. Après, j'ai mon beau-fils avec lequel je partage beaucoup de choses, mais je vais pas revivre une grossesse, une naissance, etc. Je ne veux pas rater les moments importants. Donc voilà, professionnellement, j'ai peut-être pas forcément. Je n'atteins pas tous les objectifs que je me serais fixé, mais ce n'est pas grave. J'en prends mon parti et je le vis plutôt bien. Quoi.
Bon.
Voilà, puis après, pour le reste, oui, c'est quand même une question d'organisation. Hein. Je retravaille le soir aussi, par exemple, après que tout le monde soit couché. Ouais, c'est des petits trucs. Je me repose. Moi, je suis une adepte de la micro-sieste.
D'accord.
Je ne sais pas si ça peut intéresser.
Quand tu dis micro, c'est mode 20 minutes ou c'est 5 minutes?
Alors, ça dépend. Mais parfois, quand je n'ai pas le temps, c'est 5-10 minutes. Quand j'ai un peu plus de temps, c'est 20 minutes. Mais ce n'est jamais au-delà parce que sinon, c'est l'effet inverse, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est quand même très, très utile. J'ai la chance de travailler quand même majoritairement chez moi. Donc, je peux m'allonger sur un lit. Mais je sais que la micro-sieste, ça se pratique aussi dans des bureaux. Y a des petites techniques. Après, c'est une question d'entraînement. Mais c'est très, très bien, la micro-sieste. Hein, parce qu'on a une deuxième journée, en fait. C'est assez impressionnant.
D'accord. Et alors, avoir un ado à la maison, c'est pratique? Comment est Thomas avec son petit frère? Et est-ce que c'est pratique dans le sens où si vous voulez vous faire un petit dîner en amoureux, Thomas peut garder Clément?
Alors, on pourrait commencer à le faire. On l'a fait un petit peu, très peu, parce que on voulait quand même attendre que Thomas se sente assez à l'aise pour ça. Mais c'est des choses qu'on fera peut-être un peu plus à l'avenir. Ce qui est chouette, c'est que les deux frères s'entendent très bien, même avec 9 ans d'écart.
Ouais, j'allais dire presque 10 ans, donc ça pourrait être...
Il y a un vrai crush entre eux.
C'est chouette.
Mon beau-fils est resté assez proche de l'enfance aussi, donc il aime jouer avec son frère. Alors, de temps en temps, il en a marre. Il est aussi dans l'adolescence, il a aussi envie d'avoir son monde, ses moments à lui, et c'est complètement normal. D'autant que mon fils est quand même assez sollicitant. Pas forcément l'enfant le plus facile de la Terre, mais bon. Voilà, mais non, ça se passe assez bien. Et je dirais que chacun a un peu a trouvé sa place assez spontanément aussi, quoi. Et en tant que belle-mère, parce que moi j'ai aussi donc cette problématique quand même de famille recomposée. C'est vrai que ça aurait pu être compliqué parce que j'étais relativement disponible pour Thomas. On faisait souvent des sorties ensemble. Moi, j'aimais bien l'emmener faire des petits ateliers. Je sais pas, visiter un musée, aller au ciné. Enfin, on avait nos petits moments quand même, même en l'ayant qu'à 50%. On avait nos petits moments ensemble. Forcément, ces moments-là ont un peu disparu avec l'arrivée de Clément. Mais on arrive quand même à se retrouver peu à peu. Puis plus Clément grandit quand même, plus on va réussir à repasser un peu de temps ensemble.
Ouais, et puis enfin, l'air de rien, dans 10 ans et même dans 15 ans, ça va être, je pense, super chouette aussi.
Oui, bien sûr.
Parce que quand tu vois les frères même qui ont beaucoup d'écart, mais même si c'est 20 et 30 ans, tu vois, après, il y a quand même une super complicité.
Bien sûr.
C'est très chouette. Et je pense que ça permet aussi aux frères de rester plus jeunes, aux frères et sœurs de rester plus jeunes.
Oui, sans doute. Et en même temps, de prendre des responsabilités. Enfin, c'est-à-dire que Thomas, il s'est aussi vu projeter grand frère, tu vois, à l'arrivée de Clément. Il a pu lui donner le biberon. Il était assez grand, à 9 ans, alors bon, on faisait attention, mais très rapidement, il a donné le biberon à son frère, il a pris des bains avec lui, enfin, il peut vraiment s'en occuper, quoi, il y a aucun problème.
Et alors, c'est la question peut-être un peu bateau, mais justement, dans un monde, dans une vie idéale, qu'est-ce que tu aimerais vraiment transmettre à ton fils et te dire, justement, dans 15-20 ans, tu aimerais qu'il ait retenu telle ou telle valeur de toi, t'en serais super fière.
C'est pas évident comme question. Moi, j'aimerais qu'il ait le goût d'une certaine liberté. Dans le sens, imaginez que beaucoup de choses sont possibles. Il n'y a pas de barrière à se mettre, qu'on peut, si on y croit et si on est prêt à travailler aussi, bien sûr, réaliser des choses, qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses rêves. Après, c'est un peu mon histoire aussi, mais je ne regrette pas d'avoir fait de la musique, même si après, ce n'est pas forcément évident de se reconvertir professionnellement. Enfin, ça donne des parcours de vie parfois un peu chaotiques, mais...
En même temps, c'est énorme. Pas pour Clément, je me dis plus tard, se dire qu'il a les albums de sa maman.
C'est voilà, après, c'est pas... disons que c'est des trajectoires professionnelles qui sont pas forcément toujours évidentes à défendre non plus, tu vois. Mais j'aimerais qu'il ait cette sensation... Je ne sais pas si on peut appeler ça de la liberté, mais assez de confiance en lui, en tout cas, pour se dire que les choses sont possibles, qu'on peut réaliser ses rêves et pas se mettre de barrières ou voilà, ce genre de choses. Ça, je trouve que ce serait bien. Et puis l'empathie, qu'il ait aussi conscience qu'il vit dans un monde où les autres sont importants, où le... il faut faire attention aussi à son environnement. De toute façon, c'est un peu sa génération. D'ailleurs, ils sont très sensibilisés à l'école là-dessus. Ouais. Ils m'en parlent souvent. Ils me disent, oui, il ne faut pas mettre de plastique dans la mer parce que les poissons, ils mangent du plastique, ce n'est pas bien. Donc, j'aimerais qu'ils conservent l'empathie un peu naturelle quand même des enfants, quoi, qui font attention à ce qui les entoure. Voilà, s'ils pouvaient partir avec ça, de la confiance en...
Bah ouais, c'est un bon bagage.
Voilà.
Et ta plus grande peur en tant que maman? Alors bon, évidemment, on pense toujours à des choses très très difficiles, au-delà, enfin évidemment au-delà de la maladie ou du deuil, parce que ça c'est juste inimaginable, mais
après c'est aussi lié un peu à des choses qui se sont passées dans ma famille, mais que mon enfant coupe les ponts avec moi, voilà, parce que finalement je trouve que la relation parent-enfant elle est assez fragile, c'est tout un art d'élever un enfant. On parlait de ce qu'on trouvait difficile. Alors, ce n'est pas forcément lié à la maternité tardive, mais on parlait un petit peu des difficultés. Et moi, je trouve qu'éduquer un enfant, c'est compliqué. Autant, j'ai trouvé que le faire, c'était dans mes cordes, mais l'éduquer, je ne sais pas si j'ai des exigences trop importantes, mais je m'en mets beaucoup en question, je doute, je teste des choses. Et je trouve que la relation parent-enfant, des fois, elle est un peu fragile. Et j'aimerais pas que mon enfant me reproche des choses plus grandes.
Ouais.
Et j'aimerais pas qu'il coupe les ponts pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est... Ouais, ce serait peut-être ça ma plus grande peur,
hein, effectivement. Et du coup, je voulais te demander en dernière question, si tu as justement un conseil, une recommandation pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent.
Peut-être un message de mère tardive, c'est peut-être de recommander de ne pas faire des enfants si on n'en a pas vraiment envie, d'essayer de résister à la pression sociale, parce que je trouve que cette pression sociale, elle fait des ravages. Depuis que j'ai écrit le bouquin, en fait, je discute avec beaucoup de mamans ou de futures mamans, et certaines m'ont dit mais moi je me rends compte que j'ai fait des enfants trop tôt. Donc quand même faire attention à ça, à bien faire la part des choses entre son envie profonde et l'injonction sociétale qui veut qu'on fasse des enfants à tel âge.
Même si
parce que parfois on peut aussi ne pas en faire avec la bonne personne, et ça c'est vraiment dommage.
Non, mais en même temps je pense que ça doit être difficile de... Enfin, c'est difficile de justement savoir si c'est à cause de la société que t'en veux ou si c'est pour toi et par rapport à de bonnes... à de bons arguments, en fait.
Bien sûr, bien sûr.
C'est hyper dur de faire la différence. Mmh.
Mais c'est intéressant de se poser au moins la question.
Et déjà, je pense que si tu te poses la question, c'est que c'est déjà un bon signe, en fait.
Exactement.
Souvent comme ça.
Ouais, exactement. Non, voilà, c'est un peu le message que je ferais passer. La vie, elle n'est pas non plus toujours... elle ne vous permet pas toujours de réaliser vos rêves ou vos désirs au moment où vous le souhaitez. Donc, il faut aussi se laisser un peu porter par ça et pas oublier que la médecine peut venir en aide si on est amené à devenir mère sur le tard.
Oui, complètement.
Voilà, c'est... Et que être maman à 40 ans ou plus, ça peut être un vrai plaisir, une vraie belle aventure.
Eh bien, merci beaucoup, Anise.
Merci, Jennifer.
Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à en parler autour de vous pour m'aider à faire connaître Le Choix d'une Vie. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte Le Choix d'une Vie Podcast, pour suivre l'actualité du podcast et me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur remixradio.fm et les autres plateformes de podcast. À bientôt !